La science initiatique enseigne que nous vivons plongés dans un océan fluidique qu'elle a appelé la lumière astrale. Ce fluide est tellement sensible que tout s'imprime en lui. La plus insignifiante de nos actions, la plus légère de nos émotions, la plus fugitive de nos pensées. Tout se réfléchit en lui jusqu'à la confine de l'univers, c'est-à-dire jusqu'aux limites du zodiaque, car l'enseigne du zodiaque représente les frontières que Dieu a créées pour le monde manifesté. C'est pourquoi on a aussi assimilé le zodiaque à un serpent qui enserre le monde dans le cercle de son corps. Si le karma est si implacable, c'est parce que tout ce que nous avons pensé, senti, accompli, s'est inscrit dans cet océan fluidique auquel nous ne pouvons échapper. Ainsi, le bien comme le mal, tout s'inscrit et revient un jour vers nous. En écoutant cette page, mes chers frères et sœurs, on trouvera qu'on a déjà parlé là-dessus. Oui, on parle souvent sur les mêmes sujets, mais toujours dans différents aspects, de différents points de vue, et ça devient toujours nouveau. Ça sera la même chose aujourd'hui, même pour le karma, même pour le zodiaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment la science initiatique, c'est-à-dire comment les gens comprennent la science occulte? Mais d'après moi, la science occulte, ce n'est pas encore la science initiatique. La science occulte, il y a beaucoup de cultistes qui l'appellent comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie toujours la magie noire, toutes ces manifestations, tout ce qui s'enregistre, toutes les choses qui sont tout près des humaines dans le plan astral. Mais la science initiatique va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et même les occultistes n'ont pas une idée encore très claire sur la science initiatique. Elle est infinie. Elle est tellement vaste, et on ne peut pas la connaître complètement, parce qu'il faut être alors, il faut être plongé, c'est-à-dire fusionné avec l'intelligence cosmique, à ce moment-là, oui, on la connaît. Parce qu'elle embrasse tout ce qui est le plus subtil, le plus inconnu, le plus extraordinaire, qui nous échappe même à nos moyenne, non, chakra même. Même les chakras sont limités. Maintenant, comment on comprend le mot lumière astrale? D'après les occultistes, la lumière astrale, c'est un fluide que les humains émanent, que les étoiles aussi, que toutes les créatures émanent, même les plantes, même les cristaux, une lumière astrale, ils disent, qu'elle a des couleurs. Astrale, ça veut dire ça vient des astres. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs espèces de lumière astrale. Comment alors Hermès Trismégistus l'a appelé? Il ne l'a pas appelé lumière astrale. Il l'a appelé télesme. Et qu'est-ce que c'est ce télesme? Ben, c'est une lumière qui venait du soleil. Puisqu'il le dit dans la table d'Émeraude, qu'il a laissée quelque part dans un tombeau. C'était gravé, c'était écrit que le le soleil était son père, la lune était sa mère, le vent la transportait dans son ventre et la terre était sa nourrice. Donc, cette lumière astrale, ça vient du soleil. Maintenant, si vous confondez avec le prana, comme les hindous qui disent que tout l'espace, l'atmosphère est imprégnée des petites particules qui viennent du soleil, qui sont pour la vitalité, pour faire vivre les créatures, ça s'appelle prana. Et même, il y a les yogis qui pratiquent, ça s'appelle pranayama. Ça veut dire pranayama, c'est de pouvoir travailler pour attirer le prana et distribuer dans son organisme. Pranayama. Et oui, mais il y a encore d'autres choses, d'autres appellations. Les hindous, qui étaient les plus avancés, et les gurus, les sadhus, c'est-à-dire les grands maîtres, et ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs espèces qui flottaient dans l'atmosphère, et il y avait une force aussi qu'on appelait Akasha. Aussi, c'était un fluide, c'était aussi une force qui était enveloppée de matière, Akasha. Et aussi, il trouvait aussi qu'il y avait encore une autre force qui était dans l'atmosphère, mais elle était tellement subtile, tellement puissante que très peu pouvaient la capter. Ça s'appelait Fohat. C'était une électricité cosmique. Alors, vous voyez donc, de dire seulement lumière astrale, eh bien, ce n'est pas clair. Cela ne suffit pas. Et maintenant, il est dit dans cette page que cet akasha, ou cette lumière astrale, si vous voulez, était tellement sensible, elle avait les propriétés d'enregistrer tout ce qui se passe dans l'univers, dans notre monde aussi, nos pensées, nos sentiments, tout ce qu'on fait, les moindres choses. Maintenant, la preuve que tout s'enregistre sur les moindres choses, je vous ai déjà parlé d'une clairvoyante qui est en Bulgarie, qui s'appelle Vanga. Je suis obligé de nouveau de répéter, parce que c'est un argument scientifique tellement extraordinaire, bouleversant, que si les savants connaissaient ça, ils changeraient leur point de vue, leur philosophie, comme j'ai assisté par la télévision à une réunion où il y avait des grands biologistes, des grands physiciens dans l'observatoire de Meudon, des astronomes et des philosophes. C'était formidable. Et qu'est-ce que c'est un savant? Vous ne savez pas. Un savant, c'est une créature, oui, qui ne laisse pas, qui ne sait pas écouter. La preuve, tous parlaient en même temps et on ne comprenait rien du tout. Alors, de ne pas savoir écouter le voisin, mais on se sent savant. Si vous cherchez dans les définitions, vous ne trouverez pas ce que je viens de vous raconter. C'est un être qui ne sait pas écouter. Il sait parler, ah ça oui, il sait parler, mais il ne sait pas écouter. Et il y avait tous raconté, s'il y avait de la vie dans l'espace, s'il y avait de la vie sur les autres planètes, et qu'ils avaient fait des études, des recherches sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, ils n'avaient pas de vie. Parce que sur Vénus, c'était tellement chaud, il ne pouvait pas avoir des organismes dans cette chaleur. Et que c'était sur Mars, il n'y avait pas d'eau, c'était tellement sec, il ne pouvait pas avoir des créatures. Ainsi de suite. Et que sur Jupiter, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas. Il y avait seulement des gaz, hein. Il ne pouvait pas avoir des créatures. Comment ils savent, vous savez, ces savants-là, c'est formidable. Ils sont allés, ils ont vu tout ça. Et même quand ils sont allés sur la Lune, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de créatures vivantes sur la Lune. Et moi, j'ai trouvé des créatures vivantes, malgré que je ne suis pas allé avec des fusées, avec des choses comme ça. Il y a seulement ces créatures sont sous la Terre et ils vivent mieux que nous. Ils sont plus intelligents, les habitants de la Lune. Et alors, ils ont de l'air aussi, ils ont de l'eau, ils ont de la lumière électrique en dedans. Ah, ça, c'est formidable. Formidable. Alors maintenant, pour vous montrer maintenant combien les savants sont loin de la science initiatique, qui est la véritable science, ils disaient qu'il n'y avait que la matière et que la matière avait des particules comme l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone, ça. Et alors ils se goupillaient d'une telle façon, ils produisaient la vie. La vie. Et alors après, il avançait, il évoluait, il se développait, c'était la matière. Mais alors elle est très intelligente, alors cette matière-là. Vous voyez, ils ne connaissent pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle esprit et qui fait bouger, qui fait se mouvoir la matière et qui goûte. Il y a des particules, bien sûr. Toutes ces particules sont indispensables, sont nécessaires parce que l'esprit les arrange, les combine. Eh bien, ils ne reconnaissent pas l'esprit. Voilà. C'est la matière elle-même qui évolue. Ça n'existe jamais, cette chose-là, dans la science initiatique. Et maintenant, comment, qui a trouvé cette science initiatique? Par des moyens, de nouveau, comme les savants, ils travaillent avec les cinq sens. Et comme ils ne reconnaissent pas qu'il y a d'autres moyens pour explorer, pour étudier, pour découvrir l'espace et la matière et les étoiles, ils ne reconnaissent pas, donc seulement les 500. Ils sont basés sur les 500. Et comme ils sont limités, les 500, ils peuvent voir, ils peuvent détruire seulement des choses très limitées. Et voilà pourquoi, en se basant sur les 500, ils se trompent énormément. Et maintenant, pour leur montrer qu'il y a quelque chose d'autre en dedans, dans les créatures, qui les fait vivre, qui les fait bouger, qui les fait changer. Et quand cette chose-là, qui est invisible, impalpable, impondérable, inconnue, n'est plus là, alors l'être humain, par exemple, ou n'importe qui, devient un cadavre immobile, ne bouge plus, ne parle plus. Voilà. Et qu'est-ce que c'est cette chose-là qui a abandonné le corps physique, la matière, le côté chimique, toutes ces particules chimiques, et alors elle-même ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est quelque chose d'autre qui les vivifiait, qui les poussait, qui les faisait mouvoir, etc. Pourquoi les humains sont tellement ignorants de nouveau? De ne pas constater des choses et des choses et des choses que, de nouveau, je vais vous révéler. Alors, j'ai toujours répété, voilà, la matière est tellement intelligente que c'est elle-même qui fait tout, toutes les manifestations spirituelles, c'est la matière. Alors, voilà, moi, je disais, il y avait dans une imprimerie, il y avait des petits lettres du plomb et ils se sont arrangés de telle façon, ils ont imprimé la Bible. Mais c'est ça la mentalité humaine. Regardez combien c'est stupide. Et comme il y a des preuves dans le monde, dans la vie, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, et il y aura toujours jusqu'à la fin, des preuves qui montrent tout le contraire. Que c'est l'esprit, justement, qui fait mouvoir les choses. Alors, donc, les deux principes, toujours l'esprit et la matière. Voilà. Le principe masculin, le principe féminin. Le principe actif et passif. Émissif et réceptif. Et alors, voilà, maintenant, il y a une clairvoyante. Ben, il y en a des milliers dans le monde entier, même aux Indes. Moi, j'ai rencontré des gourous qui étaient clairvoyants. Et ils m'ont donné des preuves. Si vous êtes tellement curieux, je vous montrerai quelques preuves de leur clairvoyance. Alors, qu'est-ce que c'est cette femme Vanga? Ben, c'est une femme, mais elle est âgée maintenant, mais elle a perdu la vue quand elle était très jeune. Elle est tombée dans une broussaille où il y avait des épines. Alors, elle était blessée dans les yeux. Elle est aveugle. Elle est aveugle physiquement. Et elle voit tout. Le passé, le présent, l'avenir. En détail. D'une façon stupéfiante. Et même le gouvernement, je vous ai dit, il lui a fait une maison pour recevoir des clients de tous les pays. Et c'est lui qui prend l'argent et un petit peu pour Vanga. Et alors, comment ça se fait que des personnes qui ne sont pas là auprès d'elle, qui sont dans d'autres pays, mais qu'ils ont envoyé un morceau de sucre. Et alors, qu'il l'a tenu quelques minutes dans sa main, comme ça. Si vous pesez maintenant ce morceau de sucre, ben, vous ne trouverez rien. Ni avec les microscopes, ni avec... ni c'est plus lourd, ni c'est plus... Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce morceau de sucre? Ah, un fluide, une émanation, quelque chose qu'on émane, qui est impondérable, invisible. Et cette chose-là, justement, cet élément-là, contient tout le caractère, toutes les maladies, toutes les qualités, toutes les vertus, les faiblesses, les défauts, les vices de cette personne qui avait tenu le morceau de sucre. Et elle vous le dit, voilà, il est comme ça, il va mourir de ça, et il était dans tel accident, dans telle blessure, en détail. Et comment alors les savants, comment ils peuvent maintenant expliquer ça? Que l'homme laisse des traces, des empreintes partout, sans se rendre compte, là où il habite, la personne qu'on embrasse, ce qu'on écrit, partout on laisse des traces de son caractère. Si c'est un mauvais caractère, ça rayonne, ça émane des choses mauvaises, des choses sales, des choses dégoûtantes. Mais les gens ne sont pas conscients de tout ça. Et voilà pourquoi dans le passé, on connaissait ces choses-là. Pourquoi on appréciait les saints, les prophètes, les grands maître, parce qu'ils avaient vu, ils avaient constaté ce qu'il émanait, ce qu'il laissait, ce qu'il imprenait, leur émanation, et améliorait, purifiait, guérissait, éclairait, faisait avancer, protégeait. C'est pourquoi ils estiment les saints, les prophètes, les grands maîtres depuis, et surtout aux Indes. Si vous savez aux Indes comment ils apprécient quelqu'un qui est d'une pureté, d'une luminosité. tandis qu'en Occident, il n'y a rien de sacré pour les Occidentaux. Rien de sacré. Et c'est pourquoi il ne reçoit rien du tout, rien du tout, rien du tout. Alors le ciel est fermé pour eux. Tandis que ceux qui sont déjà développés dans l'intuition, dans le côté sacré, dans la pureté, dans la sainteté, ils reçoivent des choses mais leur incalculables, inouïes par le monde invisible. Et c'est ça qu'on doit maintenant développer, éveiller ici en Occident, le côté sacré, de prendre conscience de ce qui est divin, de ce qui est supérieur, de ce qui est lumineux. Parce que de plus en plus maintenant, les Occidentaux travaillent dans le contraire. Comment désacraliser, comment salir, comment... Et même, regardez, il y a un livre contre le pape, mais alors, il est sali, mais alors, plus que moi, le pauvre pape. Qu'il est déjà un espion à la Russie, et qu'il a fait ceci, et que... Mais alors, pourquoi les humains sont tellement déformés, pour aller toujours faire pipi, rejeter des excréments sur des gens qui ne méritent pas? D'après moi, le pape, il est parmi les meilleurs papes, voilà. Voilà. Mon opinion, j'ai beaucoup de sympathie, de respect, d'amour pour lui. Parce que ça, c'est une belle âme. Et c'est toujours, on veut maintenant le supprimer, le tuer. Et savez-vous, ils ont trouvé que c'était les Bulgares qui voulaient l'assassiner. Et c'est pas vrai, on découvre maintenant que c'était une machination. La justice commence à découvrir les vrais. Que ça vienne un petit peu d'un pays, ça c'est vrai. Mais ne parlons pas là-dessus. Pour vous dire maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant ce fluide, ce akasha, qui s'imprime partout? Et même moi, quand j'étais en Bulgarie, alors je suis allé la voir, Vanga, on a parlé ensemble pour la voir comment elle est, quelles sont ses manières, son visage, parce que mais, j'aime étudier tout. C'est pourquoi j'ai parcouru presque le monde entier, pour connaître toutes sortes de gens. Et même j'étais stupéfait de voir, quand je suis allé même en Éthiopie, et j'étais sidéré de voir que ces gens-là avaient des jambes, des bras, des oreilles, le nez, comme nous. J'espérais voir d'autres créatures dans tous les pays. C'est formidable. Et ils rassemblent, sont créés tous de la même façon. Seulement les dimensions un petit peu, les couleurs un petit peu, les formes un peu. Mais ils ont tous une bouche, des bras, des jambes. Même il y avait des doigts sur les mains. Alors donc, ça, c'est une preuve qu'il y a un domaine plus subtil que la matière visible, pondérable, et que la science doit maintenant aller beaucoup plus loin dans ses recherches. D'ailleurs, il y a beaucoup de savants, ça je suis au courant, et déjà qui croient à toutes ces choses-là et qui écrivent même des livres, et qu'ils découvrent des choses subtiles, et ils voyagent pour trouver des clairvoyants. Mais en général, je parle pour la science, en général, elle est encore très loin de tout ça. Mais qu'il y a des savants qui pensent déjà, comme nous un petit peu, oui. Et maintenant, la phrase qui est là. Je parle maintenant de Zodiac et que c'est une frontière, le Zodiac. Et que tout ce que nous envoyons dans le monde peut revenir vers nous. Voilà maintenant une chose, au point de vue astrologique, qui vous étonnera. Tout d'abord, on n'a rien compris. Mais vous allez voir maintenant ce qu'il y a derrière. Tous les astrologues parlent du zodiaque, des constellations, ceux du bélier, taureau, etc., de leur forme, de leur influence, et quand telle et telle planète se trouve dans tel et tel signe zodiacal, quelles sont les influences que l'être humain reçoit avec les maisons, avec les aspects et les dominations. Alors là, il y a toute une science que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont en train maintenant d'étudier. Et oui, mais si on se pose la question maintenant, d'où ça vient cette science? Quels sont ces êtres-là qui ont trouvé le zodiaque et les planètes? Et comment ils ont découvert les influences de telle planète dans tel zodiaque? Parce que les Chaldéens, surtout les Chaldéens, parmi les Chaldéens, et même avant les Chaldéens, il y avait d'autres pays, anciennes, acadiennes, tout ça, et les Égyptiennes, ils avaient des grands initiés qui pouvaient se dédoubler, qui pouvaient aller faire des recherches dans l'univers, dans les profondeurs des océans, aller sur les planètes, et sentir les influences de toutes les étoiles. Et ils ont découvert ce que la science astrologique ne mentionne nulle part. Qu'il y avait des frontières, et que, bien sûr, derrière ces frontières qui est le zodiaque, ils considéraient que c'était une frontière pour toutes les planètes et les étoiles qu'il y avait dans son intérieur. Tandis que derrière le zodiaque, il y avait encore des constellations, mais alors sans fin. D'ailleurs, les astronomes trouvent que ce sont des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, même des constellations, et qu'ils découvrent que la lumière se propage à 300 000 km par la seconde, et que la lumière du soleil vient dans 8 minutes et quelques secondes sur la Terre, et que pour une année, la lumière parcourt 10 millions, milliards de kilomètres. Ce sont des calculs, mais moi je trouve que ce n'est pas juste. Il y a 10 millions de milliards et encore 50 mètres de plus. C'est d'après mes recherches. Vous savez, les savants, ils tâchent d'arrondir. Alors, si je prenais mal le train, on restera au milieu, là, quelque part dans l'espace. C'est pourquoi je me méfie dans ces calculs des savants. Oui. Mes calculs sont plus justes, plus exacts. Et alors, pourquoi maintenant il y a une barrière, il y a des frontières? Exactement d'après cette science initiatique qui vient de l'intelligence cosmique, ces êtres-là, ces grands maîtres, ces grands initiés, ces grands clairvoyants, ils ont découvert ça, qu'il y avait les deux principes, l'esprit et la matière, l'homme et la femme, et que la matière avait tous les éléments nécessaires pour fournir à l'esprit pour qu'il travaille. Comme le boulanger, regardez, le boulanger, c'est l'esprit. Et la pâte, c'est la matière. Et il fait des formes, il a malaxé, comme l'homme qui fait avec la femme. Donc, partout, 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 ils ont vu qu'il y avait deux choses, l'esprit et la matière, l'esprit et la matière. Et que le fait que le zodiaque n'échange pas, ils sont toujours à la même place, les constellations, bélier, taureau, gémeaux, cancer, comme la matière. Mais il y a l'esprit, les planètes qui se meuvent, qui changent, qui vont, qui viennent, qui reviennent, qui tournent. Ah, donc là aussi, il y avait l'esprit et la matière, l'esprit et la matière. Et voilà, même dans le mouvement, il y a quelque chose, regardez, le zodiaque qui monte et les planètes qui descendent, le contraire mouvement. Ils parcourent comme ça, les planètes, et le zodiaque qui monte comme ça, qui tourne. Ça aussi, ils n'ont pas expliqué, les astrologues, pour voir le côté initiatique, le côté profond, le côté ésotérique. Partout, avec les deux principes, j'arrive à déchiffrer tout. Avec le principe masculin et le principe féminin. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis androgyne. Voilà. On m'a donné les deux principes en dedans. Et quand on a les deux principes en dedans, on a l'équilibre, la balance. Alors on peut travailler, découvrir beaucoup de choses. Tandis que, si on n'est pas androgyne, ça veut dire qu'on est seulement homme, ben, il est pauvre, il est mutilé, il est moitié, il cherche l'autre moitié pour être comblé, pour être ensemble, pour être en tout. Et les femmes aussi, les femmes qui sont moitié, hein, ils cherchent le principe masculin. Et celui qui est androgyne, il ne cherche aucune femme. Aucun homme, parce qu'il est en dedans, l'homme ou la femme. Alors, vous voyez, c'est formidable ça. Et alors, donc, prenez maintenant une chose. Quand vous êtes dans les montagnes, hein, sur les montagnes, vous parlez quelque chose, prononcez quelque chose. Et les montagnes le renvoient. Il y a donc une paroi. Il y a une frontière, ça se reflète, ça se répercute, comme quand vous jetez une boule, elle bondit, ou sur une paroi, elle vient vous frapper. Alors, ben ce sont des lois physiques, ils sont reflets des lois spirituelles. Et les physiciens n'ont rien compris, puisqu'ils n'expliquent pas la profondeur d'une chose pareille. Donc, quand il y a des parois et que vous prononcez, vous dites « Je vous aime, je vous aime, je vous aime » de tous les côtés, l'écho qui vient « Je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Ben, il fallait s'arrêter sur cette loi. Alors donc, et quand vous dites « Je vous hais, je vous déteste » de tous les côtés, l'écho qui dit « Je vous déteste. » Ils n'ont pas compris que dans la vie, la même chose se répète. Qu'on envoie quelque chose dans l'espace, toujours les radiations, les vibrations, les... Mais c'est ça justement, des projections, voilà, ce fluide-là. Eh bien, il tombe quelque part, il se projette sur des parois et ça revient après vers nous. Et on est frappé, choc en retour, si on faisait de la magie noire. Voilà, les gens ignorent renvoyer. Après, ils sont dans des états, ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Et si c'est le bon côté, oh là là, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est pourquoi les disciples de la fraternité blanche universelle savent comment envoyer la lumière, l'amour, la bonté, la pureté, la chaleur partout, et ça revient un jour sur eux-mêmes. Et ils sont dilatés, ils sont cons, ils ne savent pas pourquoi. Ils disent, oh, c'est le bon Dieu. Pas du tout, le bon Dieu n'est pas même au courant. Ça contribue à la religion, vous voyez? Le bon Dieu, il est toujours là pour surveiller, pour ceci, pour vous punir, pour noter vos péchés. Oh là là, la merde, pour... Comment ils s'imaginent, les gens, sur le bon Dieu? Il est là même dans les caves, dans les souterraines, pour voir les cochonneries qu'on fait là, les monstruosités, il les note tranquillement. Il n'est pas dégoûté, mais alors, ça, alors il n'a aucun goût esthétique, d'après moi, le Seigneur. D'accepter des monstres, c'est pourquoi il n'est pas là. Mais il y a des lois qui sont en dedans. Eh bien, ces lois-là, ils nous punissent ou ils nous récompensent. Et le bon Dieu est très occupé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Comment? Un nouveau ciel, une nouvelle terre? Mais oui, c'est marqué quelque part dans les livres sacrés. Mais alors, tous les chrétiens le répètent sans avoir compris que ce n'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Parce que si le bon Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre, d'après moi, il n'est pas tellement intelligent, il n'est pas omniscient. Parce que comment il s'est trompé en préparant des matériaux vermoulus, il n'avait pas prévu qu'un beau jour ces matériaux seraient, ils s'écrouleront, ils s'effaceront, ils tomberont parce que ils moisiront, ils s'oxyderont. Mais il n'avait pas le savoir, le bon Dieu. Et c'est pourquoi maintenant il est décidé de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais c'est affreux, parce que où ils iront ces gens-là qui sont là dans le paradis, où ils se placeront sous la pluie? Parce que pour créer maintenant un nouveau ciel, il faut beaucoup de temps. Et ils seront là dans la rue, les pauvres. Donc, non, ça ne va pas, cette affaire-là. Il faut interpréter ces choses-là, mes chers. Et personne ne les interprète. On les prend littéralement. Dieu est en train de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est pourquoi il ne regarde pas les crimes. Ce n'est pas lui qui punit. Ce n'est pas lui. Je ne l'ai jamais vu punir quelqu'un comme il est montré dans la Bible, dans le Testament, le Vieux Testament. Il est là pour toujours être en colère, toujours punir, toujours brûler, toujours assassiner. Même les enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Quel amour, c'est formidable. Et après, on l'appelle, il est amour, Dieu est amour. Ça ne coïncide pas, ça ne correspond pas. Alors, on n'est rien comprendre, mes chers frères, s'il n'y a pas quelqu'un qui explique les choses. Un nouveau ciel, oui, il est en train de créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça, c'est vrai. Mais pas comme on s'imagine. Parce que vous avez vu ça, c'est terrible ça. Donc, il n'est pas omniscient. Et après ces pauvres esprits-là, les anges, les archanges, les dieux, où ils auront se placer? Alors, il faut comprendre, Dieu est en train de créer un nouveau ciel, le ciel, une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie, une nouvelle intelligence, et la terre a un nouveau comportement. D'agir différemment, de se comporter différemment. Voilà le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et tout le monde verra qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre d'ici quelques années. Voilà. Une nouvelle vision du monde, nouvelle philosophie, nouvelle mentalité, nouvelle lumière, c'est ça le ciel. Et nouveau comportement, ah, c'est ça la terre. Autrement, ça parle très mal pour le Seigneur. Non, non, il y a certains, ils m'écoutent, ils ne comprennent rien du tout. Oui. Ils sont pas habitués à interpréter, à déchiffrer, à réciter certaines vieilles sentences, oui. On est bien préparé. Mais de comprendre la profondeur de certaines choses, on n'est pas habitué. Allons-y plus loin maintenant. Donc, les planètes, ce qui est mouvant, c'est l'esprit. Et le zodiaque, qui est stable, qui est immuable, mais qui monte toujours, parce qu'à cause de la Terre, bien sûr, à cause du mouvement de la Terre. Mais le zodiaque ne bouge pas. C'est nous qui voyons, il est toujours là. Bien sûr, il y a des mouvements aussi, là, dans les étoiles, mais on ne peut pas les détecter, on ne peut pas les voir. Tout tourne tout, il y a son chemin, tout. Mais c'est tellement loin qu'on ne peut pas constater ça. Alors, donc, d'après le mouvement de la Terre, on voit que le zodiaque qui monte, après il descend, comme ça. Et les planètes, tout le contraire. Et pourquoi c'est comme ça? Pour montrer que la matière, c'est une chose, Et l'esprit, c'est une autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, la planète, qui est l'esprit, une force, agit sur la matière de tel et tel zodiaque, de telle et telle constellation, signe zodiacal, parce que là aussi, si je dois vous parler, il y a une différence entre signe zodiacal et la constellation. Mais ça, c'est loin, ça nous amènera loin, c'est pas nécessaire. Il y a grande différence, mais on les confond quand ils ont signe zodiacal, la constellation zodiacale. Oh, mais pour ne pas aller loin. Donc, la planète qui se trouve dans tel et tel zodiaque éveille des choses déterminées dans tel et tel degré. Si c'est un autre degré, c'est une autre qualité, une autre vertu, une autre force. Et c'est ça qui est perdu, qu'on ne sait pas dans quel degré la planète, qu'est-ce qu'elle provoque. Parce que c'est la planète qui provoque. Vous direz, non, c'est les signes zodiacales qui agissent. Je vous montrerai que tous les astrologues se trompent. Si les signes zodiacaux agissaient sur nous, comme on s'imagine, eux qui sont les plus grandes vertus, les plus grandes qualités, et quand même les 12 pierres précieuses de Nouvelle-Jérusalem étaient symbolisées, concrétisées de ces 12 signes de zodiaque. C'est qualité et vertu. Mais alors le monde entier sera des divinités, puisqu'il agit sur le monde entier de la même façon, divinement. Pourquoi les humains ne sont pas divins? Ah, c'est les planètes qui provoquent telle et telle chose. Pourquoi? Parce que les 24 vieillards qui connaissaient la vie, les vies précédentes de telle et telle personne, comment ils pensaient, comment ils sentaient, parce qu'ils ont des ordinateurs, les 24 vieillards, vous savez, et plus perfectionnés que celui des humains. Hein? Mais oh, ça fonctionne, ça marche, ça prévoit, ça calcule instantanément dans quel endroit vous devez tourner, dans quelle époque, et quelle heure, et quelle minute, et chez quel parent. Instantané. D'après la vie que vous avez menée. Pourquoi ? Pour qu'il y ait une correspondance, une justice, le karma dont il parle ici, le karma, ce que vous devez payer, et karma, ce que vous devez être récompensé. Parce que karma et karma, c'est différent. Le karma, c'est tout ce qui est négatif à payer, à liquider, à souffrir, à être malheureux. Et karma, c'est une récompense, c'est quelque chose de divin. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est la moralité. Karma. Alors, regardez maintenant combien les astrologues contemporains sont loin de tout ça. Et maintenant, ça pullule. Des astrologues, tout le monde devient astrologue maintenant. Et oui, mais pourquoi? Il y a le zodiaque, il y a les planètes et les aspects, bien sûr. Les aspects, ça veut dire quel comportement ils ont vis-à-vis de telle et telle planète. Par exemple, qu'est-ce que c'est un trigone et un sextile? Alors, ce sont des comportements, comment les planètes se comportent les uns envers les autres et dans quel signe, et voilà le destin. Si c'était le zodiaque qui agissait sur nous, seulement, on devait être des divinités, parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ce signe de zodiaque, où j'ai expliqué dans une autre conférence. Les 12 travaux de Hercule, que ça n'a jamais été interprété. Les 12 travaux de Hercule, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vaincu Hercule? Et c'est Orphée, quand il est allé en Égypte, il a condensé dans cette, n'est-ce pas, toutes les sciences. Oui. Mais laissons tout ça. Maintenant, alors, donc, les planètes représentent l'esprit, le côté dynamique, le côté actif, le côté vivant, et le zodiaque, c'est la matière. Alors que l'esprit provoque et tire certaines choses de cette matière. Et pourquoi maintenant c'est une barrière, c'est une limite, c'est une frontière, c'est... Ah, exprès, parce que l'intelligence cosmique a arrangé les choses toujours partout, partout, partout qu'il y en a. Un centre et qu'il y a une périphérie. Qu'il y a un centre, qu'il y a une périphérie. Qu'il y a toujours des frontières, des limites. Et après, derrière ces frontières, il y a d'autres choses encore. Et eux aussi, ils ont après une frontière, une limite, ainsi de suite. Prenez n'importe quoi maintenant. Prenez une cellule, elle a le noyau, elle a le protoplasme, elle a une pellicule derrière. Prenez un fruit, il y a un noyau en dedans, il y a le jus, c'est-à-dire la chair qu'on mange. Et après, la carapace, la pellicule, ce qu'on jette. Donc, partout, partout, il y a la vie, le centre, et comme les planètes, et il y a la frontière, toujours. Une limite. Pourquoi ? Ah, pour qu'il y a la loi de l'écho, au Dharma. S'il n'y a pas les montagnes, que vous prononcez des mots, il n'y aura pas cette répercussion s'il n'y a pas des barrières pour faire refléter votre voix. Et oui, mais la voix trouvera quand même très loin une barrière, quelque chose, et se reflétera, mais peut-être des années après. Ça dépend de la distance. Voyez ? Alors là où on pense qu'il n'y avait pas d'un écho, il y aura un écho, mais plus tard, parce que la frontière, ça veut dire, la carapace était lointaine. Et voilà que le zodiaque, c'est une barrière, voilà, c'est une montagne, où tout ce qu'on fait ici se reflète jusqu'à là, et ça revient vers nous. C'est ça, justement, le destin. C'est ça. L'horoscope, voilà. Parce que s'il n'y avait pas cette frontière, il n'y aura pas des répercussions, des échos. Il n'y aura pas, s'il n'y a pas une frontière. Et voilà, ça n'a jamais été expliqué dans la science astrologique, cette façon de voir les choses. Oui. Et partout c'est comme ça, même l'atome, même regardez le système solaire, il est comme ça. Il est le centre, le point. Et voilà pourquoi l'espace, c'est un symbole de la matière. Parce que s'il n'y a pas l'espace, il n'y aura pas de matière, parce que la matière a besoin d'espace pour se placer quelque part. Tandis que l'esprit n'a pas besoin d'espace. Il est tellement minuscule, tellement au centre, tellement un point, incommensurable, immisérable. Donc l'esprit, c'est ça. Il se met partout, tandis que l'espace, la matière a besoin de l'espace. Et c'est là, justement, que ça se reflète. Donc, à travers la matière, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, ça se reflète sur nous-mêmes, tôt ou tard, à travers la matière. C'est la matière qui fait refléter, et non l'esprit. L'esprit agit toujours, et la matière fait retourner les choses. Pourquoi ? Parce que quel est le rôle de la matière ? C'est d'empêcher, de s'opposer, de tourmenter, de faire face à l'esprit, de lui tenir tête, de le limiter, de l'emprisonner. Oui, voilà, tout s'explique maintenant. Donc l'esprit, c'est la force indomptable. Et oui, mais la matière ligote, non? Il est affaibli, il est là en ligoté, il est enfermé, il est en birlificoté, le pauvre. Et alors la matière est très puissante, très forte pour limiter l'esprit. Et c'est pourquoi ce n'est pas l'esprit que nous devons renforcer. Notre pédagogie est tellement différente. Tout le monde parle, il faut renforcer l'esprit, il faut le solidifier, il faut le perfectionner, il faut l'ennoblir l'esprit, il faut ceci, il faut... L'esprit n'a pas besoin de ça. Voilà la nouvelle philosophie. Nous devons travailler sur la matière pour l'assouplir, pour l'affiner, pour la purifier. À ce moment-là, l'esprit se sentira plus libre, plus puissant. Parce que lui, il est parfait, il est fort, il est puissant, il est magnifique, il est omniscient. Oui, mais il ne peut pas se manifester. Parce que la matière ne lui permet pas. Mais en dedans, il est tout puissant, il est omniscient. Et oui, mais il ne peut pas se manifester. C'est pourquoi il est dit que le zodiaque, c'était une limite pour le monde qui est créé ici, dans son intérieur. Beaucoup de planètes, beaucoup d'étoiles, beaucoup, ils sont en dedans dans ce zodiaque. Et ce zodiaque est comme le serpent, et qui sert, vous comprenez, l'esprit. Symboliquement parlant. C'est très difficile à me comprendre, n'est-ce pas? Mais je serai encore plus clair. Comme je vous ai parlé avant-hier, que pour la poudre, vous voyez, la poudre, prenons la poudre comme c'est un esprit. C'est l'esprit. Et si vous allumez la poudre, elle dira comme ça. C'est tout. Mais si vous la comprimez, si vous la mettez quelque part, si vous l'empêchez et vous l'enflammez, oh là là, elle bouleverse tout, elle casse tout, elle explose, c'est formidable. Et c'était l'esprit et la matière. Alors, la matière le comprime, et quand la matière le comprime, il commence à penser à se libérer, à vaincre la matière. Plus la matière le limite, plus il se décide à travailler. Et après, je vous ai donné des images, des exemples, mais je ne veux pas les répéter. C'est un peu scabreux pour certains. Oui. Voilà, maintenant tout commence à s'éclaircir. Alors donc, les planètes agissent, ils sont dans telle et telle situation, telle et telle place, d'après notre karma, c'est-à-dire d'après notre destin, d'après nos réincarnations. Et le zodiaque, bon, il est loin, loin de tout ça. Il a d'autres choses à faire, il est tellement immense, il est tellement puissant, il est tellement divin, il est tellement céleste, tellement... Dans l'espace, c'est formidable. Et les vertus qu'il possède, c'est inimaginable. C'est les planètes qui éveillent ceci ou cela pour retomber sur nous. Oui. Pour être récompensés ou pour être punis. C'est ça le destin. C'est basé sur l'esprit et la matière. L'esprit et la matière. Bien sûr, il y en a d'autres choses encore plus abstraites, mais je ne me lancerai pas. Parce que alors là, ça prendra beaucoup de temps et après, vous ne pourrez pas me suivre. Ce sera trop abstrait pour vous. Je m'arrête ici pour vous montrer que ces deux choses sont tellement différentes, les planètes et le zodiaque. Et tout ça, les grands clairvoyants l'ont su dans le passé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont égarées, qui sont perdues, et que les astrologues ne s'arrêtent pas sur le côté tellement ésotérique, tellement initiatique. Ils vous disent, voilà, telle planète dans tel signe agit comme ça, et c'est tout. Sans expliquer, mais pourquoi, mais pour quelle raison, mais de quelle façon. Parce que c'est un peu bizarre. Hein? Pourquoi pas les autres? Il y a tellement d'autres étoiles, hein, d'autres constellations. Alors, s'il agissait sur nous-mêmes, ben, on doit être complètement alors, par terre, complètement pulvérisé. Et non. Donc, les humains, vous voyez, reçoivent, sortent, des choses tout à fait déterminées, voilà, tout à fait déterminées, claires, simples, pour apprendre, c'est-à-dire pour connaître la sagesse, pour aimer, de se libérer de la haine et après pour devenir très fort, très puissant, la volonté. Voilà, pour ces trois raisons, on a tous les horoscopes. Pour développer ces trois choses. Et alors maintenant, on peut dire, mais comment ils peuvent savoir maintenant, les 24 vieillards, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons transgressé? Mais ils ne sont pas obligés, puisque tout est enregistré dans l'Akasha Chronica. Ils ont des appareils pour que ça fournit toutes ces connaissances, tout ça s'est fourni instantanément par leur machine électronique. Et après, ils se conseillent, ils se déterminent, parce qu'il y a des cas où ils sont libres de remettre certaines épreuves pour d'autres réincarnations. C'est pourquoi il y a tellement de choses bizarres dans la vie de chacun. Il y a la vie de chacun est classée d'après des périodes. Telle période, il a vécu ceci. Telle autre période, il était dans d'autres conditions. Telle une autre période, tellement changeable, tellement variable, tellement différent. Et les gens ne savent pas que c'était arrangé par les 24 vieillards pour liquider telle réincarnation, une deuxième période, une telle autre réincarnation, pour passer, payer, se libérer. Et certaines d'autres choses, ils les placent pour plus tard. Et ça aussi, les astrologues ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est les astrologues? C'est des tricheurs. C'est des gens malhonnêtes. Comment malhonnêtes? Oh là là, je les calomnie. Non, je ne veux pas les calomnier. Non, dans le désir de vous conseiller comment échapper tel et tel accident, tel et tel malheur, tel et tel, n'est-ce pas? Alors il vous conseille, il vous donne d'agir ou de ne pas sortir ou d'aller je ne sais pas. Hein? Alors, pour que, ben c'est ça justement, il vous conseille des choses malhonnêtes, des choses injustes, de tricher. Et ce n'est pas bien. Et ils ne sont pas aperçus. Ah, c'est pour aider la créature. Oh là là, mais alors ce n'est pas honnête, ce n'est pas noble. Voilà, donc les astrologues ne sont pas aperçus qu'ils transgressaient quelque chose. Il faut révéler beaucoup de choses, bien sûr, mais il faut expliquer aux humains qu'il y a trois lois. Ah, ça, ils ne connaissent pas ça. Il y a trois lois. Qu'il y a des créatures qui vivent dans la loi de la nécessité. Ça veut dire qu'ils sont tellement bas, comme les animaux, tout ce qui est inscrit dans leur destin se réalisera. Les Turcs qui disent « Yazılık bozulmaz ». Ça veut dire, ce qui est écrit ne peut pas s'effacer. Yazılık bozulmaz. Ça veut dire, ce qui est écrit, c'est ça la fatalité. Alors, toutes les créatures qui vivent dans ce niveau trop bas, qui n'ont pas ni la volonté, ni l'intelligence, ni la conscience, ils obéissent aux instincts, aux passions, aux élucubrations, aux désirs. Ah, ils sont dans la loi de la nécessité. Alors, on peut dire à ce moment que tout ce qui est inscrit dans l'horoscope se réalisera. Ils ne peuvent pas échapper. Et oui, mais il y a d'autres qui sont plus avancés. Il y a beaucoup d'autres qui sont plus avancés dans la moralité, dans la bonté, dans la gentillesse, dans la générosité. Alors, ils vivent dans une autre loi. Et cette loi s'appelle la loi de la liberté. Ils peuvent changer quelque chose. Ils peuvent éviter quelque chose. Pas complètement, mais ils peuvent améliorer quelque chose. Parce que, avec les qualités et les vertus qu'ils disposent, Dieu leur permet d'améliorer quelque chose, d'adoucir quelque chose, mais pas 100%. Et il y a d'autres créatures qui sont allées tellement haut, ils ont développé tellement de qualités, de vertus et de puissance, qu'ils vivent dans la loi de la providence. Ils peuvent changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, les étoiles inclinent, mais ne vous forcent pas. Et qui a dit ça? Ces grands initiés qui ont étudié, ils ont vu que les étoiles, les planètes, ne forcent pas, ils vous poussent seulement, ils vous conseillent, ils vous donnent des inclinations. Mais ils ne vous forcent pas, tandis que les autres, ils sont forcés, ils sont engloutis, ils sont enterrés. Mais pour ces créatures qui sont très hauts, qui ont développé leur qualité, leur vertu, comme des frères et des sœurs qui sont dans la fraternité blanche universelle, qui ont décidé de devenir des divinités et ne plus rassembler à la foule, n'est-ce pas, au monde, ils commencent à changer quelque chose dans leur horoscope, dans leur destinée. Oui. Et après, je vous ai donné des exemples en disant, supposez maintenant que vous avez 5 planètes dans la 7e maison et que les astrologues vous diront, oh ben ça sera ou des ennemis déclarés, ou de procès, ou des mariages. Ben là, ce n'est jamais sûr et certain. Pour toutes les maisons, c'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, ce sera comme ça. Bon, tandis que dans le passé, les astrologues anciens, ils savaient exactement la nature des choses. Même si on devait être blessé quelque part, ils vous disaient où vous serez blessé. Et pas ailleurs. Par exemple, seulement ce doigt-là sera blessé. Et c'était ce doigt-là. Ainsi de suite, ils connaissaient, mais il y a des choses déjà perdues, comme je viens de vous dire. Alors j'ai expliqué, mais il n'y a pas de temps maintenant, comment celui qui vit dans la loi de la nécessité, comment ça s'appliquera à ces 5 planètes, et celui qui est dans la liberté, comment ça sera, et celui qui est, il a 5 planètes, mais il est déjà parfait, comment les choses se dérouleront. Eh bien, les astrologues n'ont jamais expliqué ça, qu'il y a des variations, des changements d'après l'évolution de la personne. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles encore à déterminer. Même ils ne savent pas si c'est une femme, si c'est un homme, si vous ne donnez pas le nom de la personne, ils ne savent pas si l'horoscope est féminin ou masculin. Voilà, retenez maintenant l'essentiel. Que c'est nous-mêmes qui provoquons l'univers d'agir envers nous de telle façon ou de telle façon. Voilà. Ce que nous pensons, ce que nous sentons, ce que nous faisons, ce que nous disons, déjà ça s'en va dans l'univers. Et s'il y a des parois, il y en a des parois. Je vous montrerai que ça peut être votre mari, le paroi, ou une femme, le paroi, ou le voisin, ou le roi, ou un maître. Oui? Un maître peut être une paroi aussi. Oui? À travers lui, il vous revient quelque chose de magnifique, de merveilleux que vous avez lancé dans l'espace. Toutes les créatures sont des parois. Et que tout dépend de nous, de construire notre vie à l'avenir. Notre avenir, c'est nous qui pouvons le fabriquer. Personne d'autre. Et notre passé, c'est passé inchangeable. Notre présent, nous ne pouvons pas le changer. Il sera réalisé, exécuté exactement comme c'est prédit d'après le passé. Sauf si on est plus avancé. Ah, un petit peu, on peut changer. On ne peut pas changer énormément. Si votre système osseux est comme ça, si votre tête est comme ça, si votre système musculaire est comme ça, si votre mentalité, vous ne pouvez pas tellement changer. Mais vous pouvez améliorer énormément l'avenir. C'est dans l'avenir qu'on est libre. Ce n'est pas dans le présent et ce n'est pas dans le passé. Dans l'avenir. Et voilà pourquoi l'enseignement de la Grande Fraternité Blanche Universelle apporte des grandes possibilités pour celui qui a compris. Il a tous les pouvoirs de créer des conditions les plus magnifiques pour sa prochaine réincarnation. D'être plus qu'un roi. Mais dans cette réincarnation, on est obligé de supporter beaucoup de choses, d'accepter beaucoup de choses jusqu'à la fin, mais d'améliorer énormément son avenir. Et comme les humains sont ignorants sur ce sujet, ils ne pensent jamais que c'est comme ça. Alors, ils détruisent tout. Oh là, ils démolissent tout. Et ils se créent des avenirs, mais alors, déplorables, inimaginables, diaboliques. Et quand ils reviennent sur la terre, ils naissent dans des familles, mais alors, les plus criminels, auprès des ivrognes, auprès des malfaits, auprès ça veut dire déformés, des gens malades, des gens, pour souffrir, pour être faim et soif, pour être battu, pour être. Alors, eh bien, les gens, vous voyez, ne se rendent pas compte sur cette sévérité. Même, je vous dirai une chose. Vous ne savez pas même apprécier le privilège, les avantages de tomber dans un endroit ici pareil, d'apprendre des choses pareilles. Et comme pour le moment, bien sûr, il n'y a pas de grands changements dans le présent, ben on abandonne tout, on ne croit plus, on laisse de côté. Mais si on était bien, bien conscient, on comprendra que ces choses-là se réaliseront tôt ou tard, les bonnes choses, ainsi que les mauvaises. Les lois sont implacables. Oui. Alors, vous ne vous rendez pas compte sur le privilège, sur cette bénédiction de tomber dans un lieu comme ça, pernicieux, un lieu pernicieux, pour entendre et apprendre des choses pareilles, et pour jubiler après, d'être une divinité. Et comment je connais tout ça? Ben, je connais, j'ai tout vérifié. Vous pouvez me croire? Alors, supposez maintenant que vous ne me croyez pas. Ben, ce sera tant pis pour vous. C'est vous qui perdez. Vous ne gagnerez rien du tout. Et votre avenir sera déplorable. Eh oui. Même les quelque chose qui sont magnifiques, qui sont bons, qui sont, vous les perdrez. Tandis que si vous croyez, ceux qui ont exploré le terrain, la route, le chemin, ils ont parcouru tout, et ils savent, ils sont au courant, et ils veulent vous aider. Pourquoi alors être incrédule?
Божья та любов розрішала всічки ті проблеми. Божья та любов розрішала всічки ті проблеми. Божья та любов розрішала всічки ті проблеми.